Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.
Nous sommes le lundi 10 juillet 2023, il sonne 11h, nous rendons grâce à Dieu d'être encore dans ce studio. Nous rendons également grâce à Dieu pour vos vies, vous tous qui êtes connectés avec nous sur les ondes de Canal FM à Lomé, Radio Lumière à Aného, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan et les radios numériques qui transportent nos voix de par le monde. C'est grâce aux techniciens Victor Bekoku, Michel Tomenga et Jérôme Kodjo Akucha. Je le disais donc, lundi 10 juillet, nous démarrons cette semaine avec cette pensée du jour. C'est l'écrivain français, membre de l'Académie française, Jean d'Ormesson, qui a écrit que la présence des absents dans notre mémoire est plus forte que la mort. La présence des absents dans notre mémoire est plus forte que la mort. Cette phrase, nous l'avons piquée de l'hommage que Isaac Tiakpé a adressé en mémoire de notre confrère et ami Jacob Ahama. Je rappelle encore une fois, la présence des absents dans notre mémoire est plus forte que la mort, a écrit Jean d'Ormesson, cité par Isaac Tiakpé dans son hommage en mémoire de Jacob Ahama. Et cette émission, je la dédie à des confrères et amis. Le premier, c'est Daniel Lawson-Drake, que j'ai retrouvé le vendredi dernier avec un grand plaisir, tenté d'une forte émotion de retrouver Daniel Lawson-Drake. Daniel, si tu nous écoutes, tu as le salut du club La Presse. Daniel, qui est un autre confrère, était de la partie. Il s'agit de Abbas Mikhaïla Saïbou. C'était vraiment un plaisir. Et puis hier, c'est un couple ami qui m'a fait l'honneur d'une invitation. C'est le couple Dame Liliane et le sieur Donné Kofi Semedo. Ils sont à Flao Sagbado. À vous, Donné, et à Liliane, vous avez ma gratitude. Deux confrères déjà à nos côtés, Jacques Laya Djakouti, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais, comme vous l'avez si bien dit, à l'entame de cette émission, par rapport à la pensée de Isaac Tiakpé, oui, à l'endroit de notre confrère Jacob Ahama, présenter une fois encore les condoléances les plus attristées à la famille Ahama et également à tout le personnel de la radio Victoire. Saluer également notre confrère Drake Lanson, que ça fait longtemps.
Bien longtemps, oui.
Que moi, je ne l'ai plus également vu. Je crois que après l'émission, vous allez nous donner plus de ces nouvelles.
Sûrement. Et tu connais son surnom dans la corporation? Non, on l'appelle Serpent.
Serpent.
Mais un serpent venimeux. Qui ne mord pas.
Donc vraiment, merci beaucoup. Et ça, si tu le permets,
oui,
je voudrais interpeller ce matin le ministre, M. Sani Yaya,
oui,
sur un fait, c'est-à-dire, je voulais parler de la caisse de retraite du Togo, CRT.
Mm-hmm.
Je voudrais inviter solennellement le ministre à faire quelque chose au niveau de cette caisse. Mmh. Ça ne va pas du tout.
Il y a
tout.
Un problème.
Oui, c'est-à-dire
lequel,
que
par exemple,
si vous voyez les locaux dans lesquels effectivement nos compatriotes travaillent là-bas, vraiment c'est pas du tout bon. Et l'autre aspect, il faudrait que le ministre fasse tout pour digitaliser la caisse de retraite. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale, Il faut quand même féliciter Madame Ingrid Awadé, qui a fait vraiment un travail énorme.
Il n'a pas fini. Qui continue
bon,
de faire?
Bon, continue de faire. Je crois que vraiment, c'est très louable. Je voudrais sincèrement, je crois qu'il y a, notre confrère Adji Mandao, qui travaille au niveau du ministère des Finances, qu'il soit le porte-voix, effectivement, du ministre pour inviter le ministre, parce que c'est lui, M. Sani Yaya, qui est le président du conseil d'administration de la Caisse.
Et puis,
l'autre aspect, pour terminer, vous savez ça, jusqu'à présent, la Caisse de retraite n'a pas un directeur. Parce que l'autre est parti à la retraite, et ça fait longtemps que...
Mais il est toujours là, parti à la retraite, mais il continue toujours à occuper le poste.
Non, je crois qu'il est parti finalement, mais il n'a pas encore de remplaçant. Franchement, j'invite sincèrement le ministre à jeter un coup d'œil au niveau effectivement de la Caisse. Quand vous allez là-bas, vous voyez les vieux, les vieilles, qui ne peuvent même pas prendre un seul escalier. Hein. Je crois qu'il faut tout faire pour effectivement digitaliser la caisse de retraite du Togo.
Alors que c'est cette caisse qui gère la retraite justement du personnel public,
du Togo.
Eh bien, vivement que la caisse de retraite du Togo fasse comme la Caisse nationale de sécurité sociale.
Ouais.
Et il n'y a pas de honte à tricher
sur
quelqu'un qui fait mieux
et
que
puis,
toi.
Et puis, l'autre aspect, vous savez qu'ils ont un local, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont un local qui est contigu en même temps à la Caisse de sécurité nationale du Togo. C'est-à-dire qu'il faudrait, s'ils n'ont pas encore les moyens de réparer tout le bâtiment, au moins prendre quelques aspects de ce bâtiment-là, aménager, pour permettre effectivement à ceux qui sont de l'autre côté de déménager, en attendant de finir les travaux.
Merci Jacques pour cette longue salutation. J'espère que les confrères feront un peu plus court. Didier Kwame Asogba du Togo Brickenews, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde, un peu partout à Kara, et bonjour aux aînés, à notre président, aux aînés, oui, en studio aussi.
Oui. Et l'un des aînés, c'est justement Kodjovi Jean-Baptiste Atisso, qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier.
Merci, c'est parti.
Oui.
Eh bien, aujourd'hui, c'est un ensemble de sujets divers que j'ai collectionné ou collecté dans vos différentes rédactions. Et c'est parti. Et Jacques, tu as dû remarquer que quand je saluais les confrères qui relaient le club de la presse un peu partout au Togo, je n'ai pas cité Radio Sama FM qui émet à Baga, à côté de Niamtougou, justement parce que le vendredi 7 juillet dernier, un ouragan s'est abattu sur toute la commune d'Oufouelgou 1. Baga n'a pas été épargné, donc c'est une véritable catastrophe médiatique. Le pylône est tombé, toutes les installations de Sama FM sont tombées, sont à l'arrêt. Alors, une petite pensée du club de la presse par ta voix à nos amis de Sama FM.
Justement, j'ai eu l'information et je voudrais vraiment dire à nos confrères de Sama FM que ce n'est pas du tout facile parce que nous, on a vécu la même chose.
Quand à Radio de l'Évangile.
Quand votre filon tombe, ça, ce n'est pas du tout facile. Et on avait eu l'amertume de pouvoir vivre cela. Je sais ce que c'est. Et vous savez que tout récemment également, la radio Carré Jeune avait eu les mêmes problèmes. Et au niveau d'Agnier, il y avait également la radio d'Agnier également qui avait eu les mêmes problèmes. Et ce à quoi il faut s'attendre, c'est qu'il faut une solidarité. Il faut une solidarité pour aider nos confrères, parce que ce n'est pas du tout facile. Quand votre pylône tombe, ça, c'est vraiment, vous avez de sérieux problèmes.
Oui.
Donc, je crois que je voudrais sincèrement compassion à nos confrères de Radio Sama FM et inviter les bonnes volontés de la localité à aider cette radio-là à se relever tôt.
Parce que c'est Sama FM qui nous relaie dans une grande partie de la partie centre-nord du Togo, Sama FM qui va jusqu'à Kanté, qui descend un peu jusqu'à Kara. Si Sama FM est au silence, c'est que nous sommes inaudibles dans la région et ce n'est pas une bonne chose. Didier, la solidarité, mais en même temps, comme prévenir vaut mieux que guérir, ce qui arrive à Sama FM doit servir de leçon à toutes les radios de veiller à la maintenance permanente des pylônes. s'assurer à tout moment que les pylônes ne sont pas rouillés et s'il y a des travaux, les faire régulièrement à temps.
Oui, je pense que au niveau des radios ou notamment des médias audiovisuels généralement, c'est le réel problème qu'il y a, l'entretien des pylônes. D'abord, veiller à ce que les pylônes soient correctement posés et veiller à ce qu'il y ait tout l'équipement nécessaire pour qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de dommages lors de la pluie, des ouragans ou autres vents qui souffleraient, donc qu'il n'y ait pas de dommages à ce matériel-là, parce que de la qualité de votre pylône, de l'antenne, comme nous l'appelons généralement, dépendra donc de la qualité de l'émission des ondes, évidemment. Et donc, si c'est pas correct, vous aurez toutes les difficultés, vous allez ne pourriez pas répondre aux engagements et également respecter les contrats. Donc, c'est normal, ce qui arrive à Sama FM doit normalement être une leçon pour chacun de nous. Qu'on soit à Lomé ou un peu partout, on n'est pas à l'abri des intempéries, parce que naturellement, ces intempéries-là ne dépendent de personne. La nature décide d'envoyer un vent, d'envoyer de la pluie, et donc il faut qu'on se prépare à prévenir. Comme tu dis, prévenir vaut mieux que guérir. Je pense qu'il y a quelques équipements, les paratonnerres et autres choses pour éviter cela, mais aussi l'installation même, l'endroit où on installe ces pylônes-là dépend. Donc, si l'installation est un peu vieille, ça peut également causer des dommages. Donc, veillez régulièrement à ce que justement qu'il n'y ait pas de rouille sur les fers pour qu'ils tombent.
Merci. Sama FM est une radio communautaire. Ça veut dire que c'est l'occasion d'interpeller tous les cadres de la préfecture de Doufelgou. D'assister cette radio à relever le pylône, à le faire monter. Il y va de la fierté de toute la région, d'autant plus que c'est la saison des fêtes traditionnelles et bientôt ce sera Sintou Djandjagou. Mm-hmm. Si Sama FM émet, ce sera le relais idéal pour Sintou Djandjagou, avec Evala qui a déjà commencé son festival le samedi dernier. Et Nouvelle Opinion nous parle aussi de la fête Ndobiti. Ça concerne les cantons de Tchamba, Larini, Alibi 1, Afem Boussou et Adjaïdé, de la préfecture de Tchamba, qui sont retrouvés également pour la 4e édition de Ndobiti, leur fête traditionnelle, en attendant que nous déplacions dans le Yoto bientôt pour Hogbezan. Jean-Baptiste.
Oui, ça c'est justement. Je crois que les mois de juillet jusqu'en septembre sont souvent les mois qui sont consacrés à la célébration de ces fêtes traditionnelles et culturelles. Et donc c'est l'occasion quand même de dire ici que nous devons prendre les dispositions et pour faire un petit détour à nos confrères de Sama FM. Mm-hmm. Je crois que la maintenance des outils et des matériels en général doit être de mise, parce que vous savez, si le pylône tombe, c'est que toutes les missions, bon, le rayonnage, c'est-à-dire l'étendue,
toutes les voies du média tombent.
C'est ça. Donc franchement, c'est que c'est une situation déplorable au niveau de cette radio. Et comme on l'a dit, il faut que les bonnes volontés, qui ne manque pas d'ailleurs dans cette région ou dans cette préfecture justement de Felgou, mm-hmm, qui puisse s'exprimer pour aider tant soit peu nos confrères pour que leur voix puisse être relevée le plus tôt possible. Mm-hmm. Et maintenant, revenant aux fêtes traditionnelles, je crois que le ton que Kara a donné à travers fête,
les Evalas
vont se poursuivre, mm-hmm, bientôt dans les autres préfectures jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Et nous, en ce qui nous concerne dans le Yoto, comme tu l'as dit, c'est le mois d'août, mm-hmm, généralement vers la seconde moitié, mm-hmm, du mois d'août que cette fête Rogouezan chez nous est célébrée. Donc nous attendons. Les préparatifs sont en cours, mm-hmm, parce que les cadres du milieu sont en train de se réunir.
Oui.
Et bientôt, nous allons tonner. et les populations.
J'ai le privilège d'avoir deux cadres de Yoto dans ce studio, toi-même Jean-Baptiste Atisso et Didier Assogba. Oui. Je passe par vous pour lancer le message. Hein, nous voudrions vivement délocaliser le club La Presse à Tabligbo ou dans le Yoto à l'occasion du Hogbezan.
Oui.
Parlez-en entre vous cadres, minuscules ou majuscules,
c'est
pour
ça.
Que ce rêve devienne réalité.
Bien, l'occasion, bon, fait le larron, comme tu l'as dit. Bien, l'année passée, il y avait les idées sont en train d'être mûries pour que cette fête soit célébrée de façon rotative dans les trois communes que compte la préfecture de Yoto. Bon, ça a été célébré à Tabligbo-Ville dans le Yoto 1.
Oui.
Bon, les discussions sont en cours.
Vivement. Que ça puisse, que ce soit Yoto 1, Yoto 2, Yoto 3, je voudrais bien amener Jacques Jacouti sur les traces. Hein, c'est là que Jacques a passé une partie de son enfance. On va se retrouver dans le Yoto avec d'autres confrères pour délocaliser le club La Presse. Alors nous embrayons avec les transports, avec deux nouvelles que nous connaissons déjà. Il s'agit de la possibilité maintenant de rallier le Nord Togo par air avec la compagnie Lise Aviation qui a lancé solennellement disons ces travaux le 5 juillet dernier, Lomé, Niamtougou, Lomé, Ouaga, bien sûr, mais pour ce qui concerne le Togo, Lomé, Niamtougou, en entendant Jacques Jacouti, que l'aérodrome soit réhabilité à Dapaon et que tu n'aies plus besoin de passer une journée entière sur la route avant d'aller voir les parents dans le tourne, Jacques.
Je crois que quand quelque chose est bon, il faut quand même féliciter. Je crois que c'est vraiment une très bonne chose ce que Lys a fait. Je crois que c'est par l'entremise de Ebomaf.
Disons du groupe Bankungu.
C'est le lieu de les féliciter pour ce qu'ils ont fait par rapport à l'avion qu'ils ont mis à la disposition entre Lomé et Niamtougou. Et comme tu l'as si bien dit, mon vœu le plus ardent, que ça, c'est maintenant aux côtés de l'État. Vous savez, vous avez bien fait de parler de l'aérodrome de Dapaon, qui était vraiment opérationnel. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État puisse revoir la piste, arranger pour que les passagers qu'on descend au niveau de Niamtougou puissent continuer pour aller vers Dapaon. Mais pour le moment, comme c'est au niveau de Niamtougou, je voudrais demander humblement au groupe Ebomaf de tout faire pour mettre à la disposition des passagers qui iront peut-être vers Dapaon, Kanté, Mango, peut-être un bus. Lorsqu'ils descendent, par exemple, au niveau de l'aéroport de Niamtougou, qu'un bus puisse les convoyer et jusqu'à Dapaon. Il ne faut plus encore sortir pour aller vers la ville avant de pouvoir
s'aligner au bord de la route.
Pour pouvoir avoir un moins de déplacement. Donc je crois que vraiment, c'est une très bonne chose ce qu'ils ont eu à faire, en mettant à la disposition effectivement cet avion-là pour aider le déplacement interurbain. L'autre aspect, encourager l'État. Encourager l'État à également, on avait parlé des chemins de fer. Vous savez, c'est possible également que l'État puisse également développer cela. On peut développer un chemin de fer également de Lomé jusqu'à Dapaon. Et je crois qu'avec ça, vous allez voir ça. On parle souvent de l'encombrement de la population dans la capitale et on cherche souvent les maisons ne trouvent pas pour location. Je vous dis que s'il y a par exemple un train qui rallie tous les jours par exemple Dapaon à Lomé, beaucoup de nos compatriotes vont se retrouver à Dapaon avant de venir travailler à Lomé. Ça ne crée pas du tout de problème. Donc je crois que c'est une très bonne chose de pouvoir développer ce genre de déplacement interurbain. Et vigoureusement, et j'encourage l'État à développer également ce train-là pour l'intérieur du
pays. Je rappelle que les colons l'avaient fait. Ouais. Entre-temps, Faure Gnassingbé porte l'une de ses ambitions sur les rails. Il en a parlé plus d'une fois. Nous attendons vivement que ce rêve présentiel prenne vraiment corps. Mais déjà aujourd'hui, on peut aller de Lomé à du moins à Niamtougou en moins d'une heure, avec un coût qui n'est pas si exorbitant. Et pour la route, est de 18. Le 18e, c'est le péage qui vient d'être inauguré à Kemerida. C'est dans la préfecture de la Bina, commune Bina 2. C'était le 27 juillet que la société autonome de financement de l'entretien routier SAFER a procédé à la mise en exploitation de ce poste de péage à Kemerida. C'est sur la route Kara-Kemerida jusqu'à la frontière avec le Bénin. Pour dire que Didier Assogba, la route, nous demandons que l'État nous construise des routes. C'est bien, l'État le fait de temps en temps, mais cette route a un coût. Et nombre de ces routes-là sont bitumées par des partenariats privés-publics, c'est-à-dire un privé fait le travail et il faut que l'État le lui rembourse. L'une des solutions qu'on a trouvées, du moins pour l'entretien, c'est le péage. Et le Togo, 56 000 km², vient d'inaugurer son 18e péage à Kemerida. Didier.
Oui, bon, je pense, avant de revenir sur le nombre de péages, je pense que pour cette route-là, très souvent, l'aîné Jacques en a souvent parlé ici, compte tenu du nombre pléthorique de péages sur la nationale numéro 1, que bon nombre de commerçants, d'hommes d'affaires de l'intérieur du pays, mais également des pays de l'Interland, préfèrent ne pas emprunter notre longue route nationale numéro 1 avec ses nombreux péages et passent par le Bénin pour sortir à Kemerida, arriver à Kara pour peut-être aller payer les deux autres péages sur la route pour sortir du Togo. Et donc, je pense que c'est par rapport à cette volonté de les rattraper là, puisque là, ils sortent à Kemerida, ils abîment la route pour arriver à Kara. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est à cette volonté de les rattraper là qu'il a été décidé par l'État de mettre ce nouveau péage-là. Et bon, d'un point de vue stratégique, on pourra dire que c'est un bon péage hein, là-bas. Ne serait-ce que pour ça, parce qu'il n'y a pas que des Togolais qui empruntent ce tronçon-là, passant par le Bénin pour sortir à Kemerida, pour aller vers le nord du pays. Et donc ça, avec les gros porteurs, les titans, avec le nombre de poids qu'ils portent pour emprunter cette voie-là, on pourra dire que ça va être une compensation pour ceux qui, ces gros porteurs-là qui empruntent cette voie. Donc oui, mais pour le nombre généralement pléthorique des péages eux-mêmes sur l'ensemble du pays, nous faisons partie de ceux qui continuent de proposer à la SAFER de trouver un mécanisme pour les nationaux pour que, si je veux, il n'y ait pas un délit je pense qu'il n'y ait pas un délit d'origine en fait. Un délit d'origine, par exemple, parce que Jacques, par exemple, lui vient de Dapao. Donc, s'il veut aller à Dapao, il sera obligé de payer tous les péages, alors qu'il est toujours sur le territoire togolais. Il n'a pas demandé à naître à Dapao, mais il veut juste rentrer chez lui, il sera obligé de payer.
C'est peut-être pourquoi il demande qu'on fasse les rails jusqu'à Dapao, comme ça, il pourra arriver à le même
point. Voilà, donc je pense fondamentalement que les réflexions peuvent continuer dans ce sens-là, pour qu'il n'y ait pas un délit d'origine, que des gens qui veulent rentrer à leur village ne soient pas obligés à payer, tout comme les commerçants qui payent également tous les péages jusque-là. Donc, ma foi, ce péage au niveau de Kemerida n'est pas scandaleux, même s'il y en a de trop, celui-là au moins n'est pas scandaleux parce que c'est pour rattraper les gens qui fuient les péages, qui abîment quand même la route togolaise. C'est pour les obliger à contribuer un peu. Mais pour le reste, en interne, on se discute en interne. Et donc, en interne, nous proposons à la SAFER de voir s'il n'y a pas un mécanisme pour les nationaux, ceux qui prennent les voitures légères pour aller chez eux. Il n'y a pas une carte ou quelque chose comme ça pour leur permettre de rentrer facilement.
Merci. Mais à ce rythme-là, il faut que nos amis de Tchamba se préparent.
Bien entendu,
la route Sokoré-Bata, Sokoré-Tchamba est en réhabilitation, comme la route Sokoré-Bassa, Binaparba est en réhabilitation. Préparez-vous, quand ces routes seront terminées, ne soyez pas surpris que des péages y soient érigés. Nous évoluons avec quelque chose que les Togolais ont souhaité dans nos émissions. Les gens ont appelé. Enfin, il vient d'arriver. Lui, c'est le fameux scanner au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé-Tokoin. Le correcteur, dans sa parution de ce jour, écrit: le CHU Sylvanus Olympio de Tokoin
obtient enfin son nouveau scanner. Mais que des dégâts d'ici là, s'écrit le correcteur. Le quotidien national Togo Press même écrit « Un nouveau scanner sera mis en exercice ce lundi même au CHU Sylvanus Olympio ». Et si vous avez suivi le journal parlé ce matin à 7 heures, vous avez sans doute écouté ce papier de Fousséni Sahibou que je me fais le plaisir de vous reproposer.
Une nouvelle qui va certainement réjouir les patients du CHU Sylvanus Olympio qui ont longtemps réclamé l'équipement du centre en scanner. Plus besoin de trimballer un patient d'une clinique à une autre à la recherche de scanners. Désormais, tout se fait sur place. Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio met en service ce jour un nouveau scanner. L'appareil doté de 64 barrettes a été acquis sur la base d'un partenariat public-privé. Il s'agit d'un appareil très rapide, très performant et qui peut faire l'exploration du crâne, du thorax, de l'abdomen avec leur contenu, sans oublier les vaisseaux. Il peut faire jusqu'à 128 coupes et détecter les lésions dès les premières secondes, explique le ministère de la Santé. Pour rappel, l'acquisition de cet équipement s'inscrit dans le cadre d'un programme de réhabilitation et de modernisation du système sanitaire porté par le gouvernement. Il y a 3 mois, le pays s'est également doté de son tout premier hôpital de référence baptisé Dr Lafien.
Et voilà, je viens d'accuser réception de cette information officielle du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins qui parle de la mise en service ce 10 juillet 2023 du nouveau scanner de 64 barrettes au CHU Sylvanus Olympio. Et la direction du 10 centre et la CMC constate l'effectivité de fonctionnement du joyau avec un premier patient. Le renforcement du plateau technique en marche dans les hôpitaux. Une information de source sûre du ministère de la Santé. Jean-Baptiste Tissot, c'est vraiment un grand ouf que nombre de Togolais vont pousser à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment un ouf de soulagement. Après tant d'années de souffrance et de peine que les patients ont eu dans cet hôpital où quand il y a besoin d'aller au scanner pour une analyse donnée, beaucoup sont obligés d'aller dans le privé pour pouvoir faire ces analyses à prix d'or. Et imaginez le prix selon les responsables du Saint-Fort, le scanner devrait coûter autour de 400 millions de francs. Et malgré ce montant-là, le gouvernement a semblé ne pas réunir cela pendant plusieurs années. Je crois que c'est une occasion pour nous quand même de saluer le gouvernement, mais en ayant l'opportunité de lui signifier que la vie d'un homme n'a pas de prix. Et si réellement la santé des Togolais tient vraiment à cœur au gouvernement, ce ne sont pas 400 millions qui doivent manquer à un gouvernement pendant des années où l'hôpital de référence, si on doit le dire, le plus grand hôpital du Togo, qui est le CHU Sylvanus Olympio, doit manquer de scanners pendant plusieurs années. Et après celui qu'on avait, par le biais du financement de la BIDC, laissé en jachère pendant tous ces 7 ans où les patients ont souffert et ont dû se rabattre sur le privé. Je crois que vraiment, si réellement la volonté de bien satisfaire la population, la volonté d'équiper nos structures est vraiment dans le gouvernement, il faudrait que ça se matérialise, non pas seulement à travers ce scanner, mais d'autres outils plus sophistiqués dont le CHU Sylvanus Olympio a besoin dans plusieurs services, parce que ce n'est pas seulement le scanner qui manque, il y a beaucoup de matériel qui font défaut et qui occasionnent malheureusement des morts des gens. Et à cela, bon, on peut aussi peut-être toucher du doigt le manque de professionnalisme des agents, de certains agents, parce que parfois il y a des matériels qui sont là, mais le personnel qui, par négligence,
Nous parlions tantôt de la maintenance, pour ce qui concerne les pylônes de nos radios, la même exigence s'impose
au CHU, le Métocoin, pour le nouveau scanner.
Absolument.
Eh bien, Jacques Jacouti, c'est vraiment un ouf avec ce nouveau scanner qui vient d'être mis en service. Jean-Baptiste l'a dit, nous comptons sur le CHU, le Métocoin, pour la maintenance, pour que ce joyau-là dure longtemps. Mais je vois déjà quelqu'un qui va dormir un peu plus. C'est le directeur de cet hôpital, le lieutenant-colonel Agbobli, qui a été acculé par les uns les autres, mais qui doit trouver dans ce scanner-là vraiment un motif à soulagement.
Je crois que c'est le lieu de saluer le colonel, docteur, directeur du CHU Sylvanus Olympio. Il faut reconnaître qu'il a tenu, parce que ce n'était pas du tout facile. Et moi, je voudrais plutôt, vous savez, ça, quand vous êtes journaliste, il faut quand même essayer d'investiguer un peu pour voir effectivement ce qui s'est passé au niveau de la non-livraison à temps de ce scanner. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça émane du chef de l'État, M. Forigna Singbe, je ne crois pas. Vous savez, il y a certains qui sont autour effectivement du président. Au lieu d'aider le président à avancer, les gens veulent tirer toujours le tapis vers le bas. Et ça crée d'énormes problèmes. Comme Atissola a dit, entre nous, ça, combien, on parle de 400 millions, comme il vient de dire. Est-ce que l'État togolais, vous croyez que l'État togolais peut manquer 400 millions pour acheter un scanner? C'est des gens, moi, à mon humble avis, sûrement, que c'est les gens qui sont autour, qui vont aller dire au président, non mais écoute, si vous achetez ce scanner, les gens sont obligés de pouvoir encore détruire ce scanner-là au détriment de leur scanner. Parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mm-hmm. Ce qui a été dit au niveau effectivement de l'équipement du CHU Sylvanus Olympio et du CHU également. Tout coin est plutôt...
CHU Campus.
On a appris beaucoup de choses. Ou entre-temps, on accusait même certains médecins de détourner les patients vers leur clinique privée. On a entendu beaucoup de choses. Mais à cela n'en tienne, je crois que pour résumer, comme les évêques le disent, à Zonko, je crois que finalement, le scanner a été installé. Il faudrait aujourd'hui que le directeur du CHU, Sylvanus Olympio, puisse prendre soin effectivement de ce matériel-là. Parce que ce que nous allons constater avec le financement de la BIDC, avec l'autre scanner, où on attendait le chef de l'État pour l'inauguration, et entre-temps, ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, que ce scanner ne soit pas ainsi. Je crois qu'il n'a qu'à tout faire pour chercher les vrais techniciens pour effectivement l'entretien de ce scanner. Une chose est d'installer, une autre chose est d'entretenir.
Merci. Donc, nous l'avons réclamé pendant longtemps. Nous venons d'avoir le scanner au CHU, Sylvanus Olympio, qui vient de s'ajouter à ceux déjà en exercice au CHU Campus, au CHU Cara. Maintenant, l'autre défi, c'est la maintenance, la qualité des services, la qualité des prestations que ces joyaux vont offrir, le prix qui va constituer un grand ouf de soulagement pour nombre de la population togolaise. Domaine de l'éducation, Didier Assogba, la semaine dernière, le ministre Kokoroko a sorti la liste des établissements privés qui ne répondaient pas aux normes, qui ne seront plus ouvertes à la rentrée scolaire dans quelques mois, dans quelques semaines. Et puis samedi, il a complété cela par la liste maintenant des établissements privés toujours, mais agréés, qui répondent aux normes pour la rentrée. Et puis ce même week-end également, il a sorti un arrêté rappelant les couleurs auxquelles les écoles publiques devront désormais être peintes. Et là également, ça va être la fin d'une grande récréation parce qu'on a vu nombre d'écoles se faire peindre aux couleurs du donateur avec des couleurs qui défraient la chronique ici et là et que vous connaissez très bien, Didier.
Je pense fondamentalement qu'un État doit se respecter et une République doit rester une République quel que soit ce que nous faisons, quel que soit nos appartenances, y compris religieuses et politiques. Et je pense fondamentalement que nous avons connu l'école togolaise comme étant une école apolitique, une école qui n'a pas de connotation, nous avons été des purs produits de l'école publique. On l'a fait école publique du CP1 jusqu'à l'université. Et on n'a jamais vu un certain nombre de choses dans ces écoles. Et il n'y avait même pas occasion à l'époque de badiner avec l'école publique togolaise. Tout le monde sait de quoi je veux parler. Et jusqu'à il y a quelques années, donc, ce phénomène a commencé. On voit n'importe qui vient aider l'école, vient aider un peu une école quelque part, se plaît de mettre ses couleurs. Et on partage des cahiers aux élèves, on met des effigies. Et ce qui fait que finalement, l'école perdait son sens, sa neutralité et son sens républicain. Et je pense que cette décision du ministre en poste, ministre Kokoloko en poste, est une décision, ma foi, assez républicaine et assez correcte, qui doit permettre de corriger beaucoup de choses et redonner le sens du patriotisme que nous avons eu à l'école et de replacer l'école togolaise dans son sens, dans son sens premier et dans sa mission première, qui est d'éduquer, de former les citoyens togolais autant pour moi, et togolaises et togolais si vous voulez, à aimer leur pays et à rester focalisés sur leur pays, quitte à avoir leur appartenance, je ne sais pas, religieuse, politique ou autre chose après la sortie de l'école. Et donc, il a donné l'arrêté donc portant code de couleur des établissements publics. Et là, tout le monde connaît aujourd'hui, ça a été toujours des couleurs de toujours, donc généralement des couleurs que nous avons connues avant, et donc qui ont été réactualisées, qui ont été reprécisées. Je pense que maintenant, ce qu'il va faire, c'est ce qu'il doit être fait, c'est qu'on puisse suivre la décision là, la mise en œuvre de cette décision là, si un peu l'État peut accompagner un certain nombre d'établissements qui se trouvent aujourd'hui avec d'autres couleurs, pour que ces bâtiments là soient repeints rapidement à ces nouveaux couleurs là que le ministre a définies pour la rentrée prochaine. Ça va être une meilleure chose pour qu'on arrête de traumatiser
une école vraiment uniforme,
naturellement
au-dessus de
toute considération partisane. Voilà.
Et Jean-Baptiste Tissot, comme Kokoroko l'a écrit dans son arrêté avec la fermeté qu'on lui connaît, désormais, que ce soit une ONG nationale ou étrangère, un parti politique qui construit une école, même un don du chef de l'État, toutes ces écoles devront maintenant respecter les couleurs que Kokoroko vient de rappeler.
Oui, naturellement. Et moi, je tiens quand même à saluer fermement cette décision du ministre Kokoroko, saluer son courage parce que, vous savez, quand on circule en ville ou à l'intérieur du pays et on voit des établissements peints en certaines couleurs, je crois qu'on se pose beaucoup de mille et une questions, à savoir si l'école togolaise est devenue une propriété d'un parti politique, vous m'excusez le terme. Et on voit ça tout au long de la nationale et non seulement les établissements scolaires, mais cette décision que le ministre Kokoroko a prise doit quand même inciter son collègue de la sécurité et de la protection civile, le général Yak, parce que ce ne sont pas seulement dans les écoles où on voit ces couleurs, mais il y a également beaucoup de commissariats, beaucoup de gendarmerie aussi qui se prête à ce jeu-là. Et je crois que quand on veut, c'est-à-dire si nous voulons réellement avoir une nation où il y a la cohésion sociale, je crois que il y a certains édifices publics ne doivent pas porter certaines couleurs qui prêtent à c'est ça justement. Donc il faudrait que cela soit évité. Ce n'est pas parce que vous aurez peint ces structures que vous avez l'adhésion total de ceux qui vont y habiter ou bien ils vont y travailler. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas d'office. Donc le mieux, c'est de faire en sorte que nous ayons la cohésion sociale, une nation où les citoyens doivent vivre en paix et non, c'est-à-dire
dans une harmonie totale.
Donc franchement, il faudrait que dans les brefs délais que le ministre Yak aussi suive les pas de
Kokoroko. Kokoroko, lui, vient de jeter encore le groupe avec Dalama. Et quand on le connaît, tant qu'il sera là, il fera quand même respecter cette mesure que nous saluons et à laquelle nous appelons tous ses successeurs. Maintenant, après Yak, il va falloir également que le général Yak nous situe sur les couleurs auxquelles les commissariats de police, les brigades de gendarmerie devront être peintes. Le ministre Mustapha Mijiawaye devra également nous situer sur les couleurs auxquelles les centres de santé publics devront être, disons, peints. Et puis au-delà même, les ministères, tout bâtiment public, il faut que nous sachions quelle couleur doit l'orner.
Non, je crois que je ne voudrais pas prendre la défense du ministre de la Sécurité, mais ce que je sache, quand vous voyez par exemple les véhicules de la police, vous voyez par exemple la tenue de nos policiers, mm-hmm. nous savons qu'ils portent souvent le bleu et puis en bas, bon, je crois que je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on essaie de peindre les gendarmeries, mais comme tu l'as dit, si c'est à connotation politique, il faudrait que on puisse quand même corriger.
Peut-être lui demander au général Riak de prendre également un arrêté pour publier les couleurs qui sont à l'œuvre au sein de ces services.
Non, je crois que ce qui a salué dans ce que le ministre Kokoroko a fait, je crois que certainement il a reçu également la bénédiction de son supérieur hiérarchique.
Sûrement.
C'est vraiment une bonne chose. Dans ce pays, on a vu même, on est allé prendre des pierres sacrées. Et ces pierres on a peint même ces pierres-là en des couleurs d'un parti. Je crois que tout ça, là, ça va maintenant essayer d'aider les uns et les autres à dire la vérité sur ce qui se passe. Ça, dans ce pays, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un passé récent, quand vous allez même à des séminaires, vous allez à des colloques, et qu'on vous tend, par exemple, les cartables d'autres couleurs, les gens refusent de prendre. On dit non, si c'est le jaune, on sait que c'est l'UFC, personne ne prend.
Et quand si c'est orange on sait qu'on ne prend pas.
Si c'est rouge, voilà, on ne prend pas. C'est le PNP. Vous voyez, donc, il y avait vraiment beaucoup. Et vous allez même souvent, au niveau des tenues que vous portez, vous faites attention. Vous voyez. Donc, je crois que avec cette décision...
Oui, Jacques, tu me donnes l'occasion de partager cette anecdote. Vous savez que j'affectionne les chapeaux de toutes sortes. J'ai également des chéchias, notamment rouges, que je porte des fois dans ce studio les vendredis. Est-ce que vous imaginez tout ce que je reçois comme réaction? Pourquoi moi je dois porter une chéchia rouge pour venir animer une émission un vendredi pendant que je reçois un ministère du gouvernement?
C'est ça, c'est pour vous dire que
ce n'est
pays...
pas toi qui as inventé les couleurs.
Alors que le rouge se trouve dans le drapeau du Togo.
Je crois que c'est vraiment une très bonne décision que le ministre Kokoroko, comme je le disais tout à l'heure, on le connaît, on sait que... Et comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des bâtiments qui sont peints à cette couleur d'un parti. Donc il faudrait aujourd'hui, avant la rentrée prochaine, que les dispositions soient prises pour effectivement remédier à ça. Vous voyez, même les fontaines, ça, aller dans les quartiers, même les fontaines.
Les forages,
oui. Vous voyez que c'est peint toujours sur les couleurs d'un parti politique. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre Kokoroko a donné le ton. Comme tu l'as si bien dit, que les autres également ministres puissent, même le matériel souvent qu'on distribue. J'ai vu dans un centre de santé, même les mousses qu'on donne pour les malades, c'est d'autres couleurs également. Vous voyez? Donc, même quand on va rendre visite aux malades, vous entendez qu'il y a un don de tel, on fait tout pour que les dons qu'on donne là, qu'ils puissent avoir toujours une couleur dominante. Ouais, donc je crois qu'il faudrait que les uns et les autres se disent que nous sommes après tout Togolais, et même si on appartient à un parti politique, il faudrait que ce qui est général, ce qui est l'ensemble, qu'on puisse avoir quand même l'adhésion sur ce que nous faisons.
Un mot là-dessus, par rapport à la police, par exemple, on sait que, bon voilà, nos policiers portaient déjà le bleu ciel en haut, le bleu... Bleu marine en bas, avant, bon, tout ça, je pense que tout ça a été copié sur la France, par exemple, et que nos couleurs restent nos couleurs. Nous avons les couleurs de nos drapeaux, on les connaît, on ne va pas les citer, tout le monde peut regarder notre drapeau et voir. Le bleu, tout ça, si vous regardez la couleur du drapeau français, il y a ce bleu-là que les policiers portent en bas dedans. Et donc tout ça.
Et puis
donc,
l'autre aspect, Didier, pour ne pas te couper la parole.
Mais tu le fais quand même.
Bon, je suis son grand frère. Au fait, quand vous prenez les couleurs dont on parle à l'instant, vous savez que dans un passé récent, il n'y avait pas ces couleurs au sein de nos bâtiments. C'est parce qu'on a créé un parti tout récemment que finalement on a vu ce genre de choses. On parlait tout à l'heure de la police. Vous savez que dans le temps, la police avait toujours cette couleur-là, bleu et blanc. Vous voyez, c'est parce que un parti a été créé que finalement, les gens qui vont faire des dons, essayer de pouvoir peindre ces bâtiments-là un peu blanc. Mais quand on parle de la police, tout le monde, dans ce pays, on a connu toujours la police aborder toujours ces couleurs bleu-blanc. Donc, je ne vois pas, pour le niveau de la police, qu'il y ait un problème pour dire que bon, peut-être la police aussi tende vers la, la couleur du parti. Non, on a connu toujours la police togolaise dans le temps, dans toujours avoir la même couleur.
Eh bien, ce fameux parti dont les couleurs viennent inonder un peu trop le champ public, c'est l'Union pour la République unie, et ce n'est pas bien pour l'État républicain, laïque, impartial. Espérons vivement que ce que Kokoroko vient de faire, que ça fasse boule de neige et que tous les services publics, tous les départements, au besoin, prennent des arrêtés pour publier leur couleur et que dorénavant, tout ce qui se fera dans un tel département se conforme à ces normes-là.
Je finis mon intervention là-dessus et ça va justement dans le même sens. Je pense que la constitution togolaise a précisé les couleurs les couleurs nationales. La constitution a précisé ces couleurs-là et il faut que nous y allons et que, arrêté ou pas arrêté, décret ou pas décret, qu'on puisse, dans un cadre républicain, respecter les couleurs que nous connaissons pour le Togo. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, moi, il faut, à côté de la décision du ministre Kokoroko, il faut également saluer cette réaction-là d'il y a quelques mois, ou d'il y a un an peut-être, de la ministre des Sports, qui a également réagi dans ce même sens quand on a vu des athlètes togolais aller porter d'autres couleurs, des couleurs, vous connaissez, justement, d'une association à connotation politique, tendant justement vers ce parti que tu as cité tout à l'heure, dans une compétition internationale au Japon. Vous avez vu la réaction de cette ministre également. Voilà.
C'était plutôt en Turquie.
C'était plutôt en Turquie, autant pour moi, en Turquie. Je vous voyais, donc, des réactions courageuses comme ça, on en a besoin. Parce que l'État togolais doit continuer à primer sur nos considérations. Parce qu'après nous, l'État continuera. L'État togolais continuera. Après nous, la République continuera après nous. Et après, la question que chacun doit se poser, au poste et position que nous occupons aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que demain, si je n'ai pas d'influence, mes enfants, mes petits-enfants et d'autres ne soient pas brimés parce qu'eux, ils n'ont pas aimé telle couleur. Il faut que les couleurs nationales restent les couleurs nationales.
Merci. Le week-end dernier, se sont tenues successivement une session extraordinaire de la conférence au sommet des chefs d'État de l'UEMOA, le samedi. Oui. Et puis le dimanche, la CDAO qui vient d'avoir un nouveau président en exercice, Bola Tinubu du Nigeria. Cela nous a inspiré ce petit billet que nous intitulons « Réalité de la gouvernance en Afrique ». Les 16 et 17 juin 2022, une délégation de chefs d'État comprenant les présidents d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Zambie et des Comores, accompagnés des représentants de leurs homologues d'Égypte, d'Ouganda et du Congo, Brazzaville, se sont rendus à Kiev et à Saint-Pétersbourg pour jouer au médiateur dans la guerre d'agression que mène la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine. Mais pour quel résultat? Dans le même temps, la République démocratique du Congo dénonce et accuse depuis de nombreuses années le Rwanda d'agression, d'occupation et de violence meurtrière sur son territoire. La RDC s'est retrouvée même confortée dans ses accusations par des rapports d'experts des Nations Unies. Mais nulle part en Afrique, aucun pays ne lève le petit doigt à l'endroit du Rwanda. Au contraire, on a comme l'impression que Paul Kagame est le grand chouchou pour nombre de présidents de notre continent. Au Soudan, les militaires qui avaient perpétré un coup d'État et qui ont par la suite écarté les civils de la transition se livrent depuis de longs mois à une lutte acharnée entre deux camps. Le premier camp, c'est du général Abdel Fattah Bourab, et le second camp, c'est Mohamed Dagalo Emedeti. Conséquence, le Soudan, ce grand pays d'Afrique, connaît une guerre civile ouverte avec des morts, des blessés, des destructions, un ralentissement de l'économie, des lots, des flots de réfugiés, de déplacés. Les coups d'État militaires, la CEDEAO n'en veut plus. Le nouveau président, Bola Tinubu du Nigeria, qui vient d'être porté à la tête de la CEDEAO, a sommé les juntes militaires de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso de passer la main à des régimes démocratiquement élus au terme de leurs échéances qui arrivent bientôt à terme. Sinon, ces pays risquent des sanctions encore plus graves de la part de la CEDEAO. Un peu plus loin, le Gabon se prépare à sa prochaine élection présidentielle le 26 août 2023 avec encore et toujours Ali Bongo Ondimba comme candidat. Celui qui a succédé à son défunt père en 2009 et a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2018 dont il continue à porter les séquelles veut encore obtenir un quinquennat et continue à diriger le Gabon jusqu'en 2028 au plus tôt. Chez nous ici au Togo, nous avons les élections législatives et régionales et la bataille, c'est autour du recensement qui doit préfigurer d'un fichier électoral qui ne souffre pas de contestation. Mais le résultat de ces gouvernances dans les pays africains, c'est le désaveu cinglant de nombreux jeunes qui préfèrent quitter leur pays et se lancer dans des aventures hasardeuses d'exil et qui trouvent des morts atroces dans les eaux de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée, dans le désert du Sahara. Depuis quelques jours, circule cette vidéo où on a largué des négros africains comme des paquets indésirables dans le désert, à la limite de la Tunisie, du Niger ou bien de la Libye. Alors que nous sommes, Jacques Jacouti, nous sommes le continent, nous recelons de nombre de richesses naturelles, nous avons la population la plus dynamique, la plus jeune, la plus valeureuse de la Terre, mais par faute de nos gouvernants, voilà le résultat que nous avons.
Un tableau vraiment sombre et triste que vous venez de dresser par rapport à notre continent, surtout quand vous avez évoqué le cas du Soudan. Ça fait quand même pitié qu'aujourd'hui, au niveau des chefs d'État, aucun chef d'État ne puisse effectivement rassembler ses autres collègues, ne serait-ce que l'Union africaine, bon, n'en parlons pas de la CEDEAO, au moins l'Union africaine, pour appeler ces deux généraux-là qui sont en train de foutre le bordel au niveau du Soudan. Ça fait quand même triste. Et il faudrait que le secrétaire général de l'ONU, qui a appelé la fois passée la communauté internationale pour dire finalement que le Soudan est dans une guerre civile totale. C'est quand même, ça fait quand même mal. Et ça fait vraiment triste que les Africains nous puissions assister à ce sort. Et l'autre aspect, quand le secrétaire général de l'ONU a parlé d'une guerre civile totale, c'est des gens qui connaissent les tenants et les aboutissants de ceux qui sont en train de manipuler les deux généraux. C'est les États-Unis, l'Égypte, le Qatar, mais tout le monde est au courant. Mais personne n'appelle, par exemple, ces puissances-là à cesser effectivement les tueries aujourd'hui au Soudan. Ça, c'est aussi l'autre aspect de la communauté internationale. C'est-à-dire, sur l'ensemble, c'est-à-dire au niveau des médias, on se présente comme si nous sommes des donneurs de leçons, on peut appeler à la paix, mais quand on quitte, on fait autre chose. C'est quand même dommage. Donc, je crois qu'au niveau, quand vous prenez par exemple la Tunisie, avec l'actuel président, Kais Saied, qui est là, qui crée également des problèmes aux Africains à ce niveau. On a tué un seul Tunisien. Vous avez vu ce qui s'est passé là, au niveau de ce pays la fois passée? On amène effectivement ces migrants au niveau des frontières, on les jette, on les largue.
Moins que des animaux.
Il n'y a personne qui est là. Et aucun chef d'État africain qui puisse lever le doigt.
Et aucun pays africain n'a sorti de communiquer pour condamner ces comportements racistes de la Tunisie.
C'est quand même dommage. Et c'est triste vraiment pour notre Afrique. C'est triste qu'on assiste à ce
Jean-Baptiste, il y a le cas également où le Congo démocratique se plaint ouvertement que le Rwanda arme des miliciens pour occuper l'est du pays, mais silence radio au sein de toutes ces organisations, même à l'Union africaine. Mais plus grave encore, c'est la candidature de Bongo. Après 14 ans de pouvoir, Dieu merci, il a pu survivre à son AVC. Mais est-ce que Bongo, au terme de ce mandat, ne gagnerait pas à aller se reposer et voir grandir ses petits-enfants?
Je crois que notre continent a un mal qui le gangrène. Et surtout dans les pays francophones, je ne sais pas le venin ou le vaccin qu'ils prennent pour ne pas accepter quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Vous parlez du cas du Gabon. Il a hérité du pouvoir, Ali Bongo a hérité du pouvoir de son père, mais après deux septennats, ça fait 14 ans au pouvoir, avec ce qu'il a comme maladie, le bon sens voudrait quand même qu'il fasse amende honorable et accepte le jeu démocratique et ne plus même...
Et aller profiter de la vie pour lui-même et sa famille.
Sinon, après la présidence, il y a une vie. Après la présidence, il y a une vie. Par exemple, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, bon, non, plus que ça, peut-être 4 ans, au Ghana, à côté, quand il y avait, c'est pas celui-là qui était le président, et puis... 3 anciens présidents étaient venus chez lui.
Oui.
Je crois que c'était une image vraiment à saluer. C'est une image à saluer quand vous êtes président et puis vos prédécesseurs viennent vous voir. Là, ça donne vraiment de la sensation auprès de la population. Mais quand on est là, on s'accroche, on veut mourir au pouvoir. Je ne pense pas que c'est ça qui soit l'idéal pour nos chefs d'État africains. Et évoquant justement la situation qui prévaut actuellement en RDC ou au Soudan, je crois que l'Union africaine, nos organisations sous-régionales doivent vraiment s'imposer et jouer leur partition. Parce qu'on ne peut pas avoir des organisations qui sont censées intervenir quand les pays membres ont des difficultés, ces organisations soient là, bouche bée, et attendent, je ne sais pas quoi, le pire avant d'agir. Pendant que les populations sont en train d'être tuées, massacrées, on est là, on ne dit rien. Je ne sais pas le rôle exactement que nos organisations sous-régionales jouent dans notre pays.
On va devoir avancer rapidement pour tenir dans le temps. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Didier, la candidature, la énième de Ali Bongo, pose le problème au plan africain. La semaine passée, nous parlions encore de Macky Sall, qui a dû renoncer à un éventuel troisième mandat. Mais Bongo, lui, vient de se lancer dans la campagne et nomme des pays, pour ne pas dire même au Togo, quand nous allons arriver en 2025, la question va se reposer encore si Fornia Singbe va solliciter un cinquième mandat ou bien qu'est-ce qu'il fera?
L'homme africain, ma foi, est hypocrite et ne s'aime pas lui-même. L'Africain ne s'aime pas lui-même et ne veut pas s'accorder la paix, ne veut pas s'accorder la tranquillité. Vous pensez qu'au Gabon, ceux qui naturellement sont mandatés à valider les candidatures sont sincères? Est-ce qu'ils aiment le Gabon? Ils s'y aiment eux-mêmes? Je pense que dans tous les pays, pour candidater à la fonction suprême, donc la fonction présidentielle, il y a un passage obligé qu'on appelle visite médicale, un check-up, pour voir si la personne a toutes les aptitudes pour diriger un État. Mais en voyant Ali Bongo, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a les aptitudes nécessaires pour continuer à diriger un pays? Non.
Honnêtement,
soyons honnêtes avec nous-mêmes, et on a vu ces déplacements où il tombait entre les bras de Macron et d'autres scènes qui ne font pas honneur à l'Afrique. Il faut que les Africains commencent par s'aimer. Si nous avons opté pour la démocratie, faisons la démocratie. Si nous ne voulons pas de la démocratie, disons-le ouvertement que nous ne voulons pas de la démocratie. On se rend compte justement que quand les chefs d'État se rencontrent, ils chantent la démocratie, comme d'ailleurs il avait fait hier seulement à Bissau pour parler de la CEDEAO, où il disait que la démocratie doit rester quoi? La démocratie doit rester avec tout le machin qu'on leur connaît. Et après, quand les éléments qui concourent à l'établissement d'une réelle démocratie sont en train d'être bafoués à l'interne de chaque État, comme vous l'avez cité, personne ne réagit. Et c'est quand les militaires sortent pour rétablir même l'ordre, je ne veux pas dire l'ordre constitutionnel, parce que les coups d'État ne sont pas bons. Mais quand les conditions se réunissent et tout le monde est désespéré, au Gabon par exemple avec cette affaire d'Ali Bongo, si les militaires sortent, on va dire qu'il y a coup d'État, est mauvais. Mais personne n'a le courage de dire à Ali Bongo que tonton, tu as fait 14 ans et dans ton état actuel, ce n'est pas correct, ne continue plus. Et on ne veut même pas respecter les principes et les lois. C'est un peu partout sur le continent et c'est lorsque seulement les militaires viennent qu'on dit que courageux. C'est mauvais. Alors qu'il y a des actes anticonstitutionnels,
beaucoup,
coup d'État, qu'on ne condamne pas. C'est pas correct pour
Jacques,
les Africains.
Rapidement, il y a un auditeur qui rappelle au chef d'État que la preuve qu'il y a une vie après la présidence, c'est Thomas Yahi Boni.
Justement.
Il fait de la guitare quand il le veut.
Il joue.
Il va jouer au football
avec les enfants.
Il
fait le gospel avec les enfants.
C'est bien. Ça, vous savez, il faudrait qu'on comprenne. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas au fait souffrir. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils veulent rester dans l'opulence là jusqu'à mourir. Alors qu'à un moment donné.
Ah, un ancien chef d'État.
Qu'est-ce qui lui manque après le pouvoir?
C'est pas lui.
Oui.
C'est pas lui. C'est l'entourage qui est autour de lui qui les manipule.
Mais eux aussi, ils ont suffisamment amassé de façon propre
l'autre. Non, l'autre aspect, ça, qu'il faut retenir. Vous savez, il est souvent dit que derrière un grand homme se trouve quoi? Une grande dame. Si vous avez une femme qui est là, qui ne peut pas vous donner des conseils, vous avez des problèmes. Et l'autre aspect, trois hommes, si tu as ta femme, il faut toujours l'écouter. Si vous voyez les grands hommes qui partent, qui n'ont pas de soucis, c'est parce que il y a une grande dame qui est derrière, qui conseille leur mari. Moi, je donne toujours l'exemple de Blaise Compaoré. Vous savez son petit frère qui est actuellement en souffrance en France, avec
François
avec la justice. Entre-temps, quand Chantal avait dit à son mari...
Chantal, la femme de Blaise.
Il faut laisser. Mais François a dit non. Grand frère, il faut tenir. Mais finalement, Blaise a écouté sa femme. Qui souffre aujourd'hui? C'est vrai que Blaise souffre là-bas, mais celui qui souffre le plus, c'est François. Parce qu'il a mal en partie avec la justice française. Il y a une autre
Merci beaucoup, les auditeurs. Nous pardonnons, nous avons piégé jusqu'à 4 minutes sur leur temps. Toutes nos excuses, mea culpa à présent... C'est la pause. 93.5. Eh bien, nous sommes de retour avec vous. Toutes nos excuses pour les quelques minutes que nous avons prises. Les deux numéros qui fonctionnent avec déjà le standard qui est sollicité. Bonjour, l'ami en ligne.
Oui, bonjour.
Oui. Allô, oui.
Oui,
Pelé, allez-y.
Ah, c'est concernant la candidature de M. Ali Bongo. La question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a des docteurs, des médecins au Gabon? Si les gens meurent dans ces hôpitaux-là, il ne faut pas accuser quelqu'un. Si des docteurs, des médecins peuvent voir un monsieur comme ça, qu'il est en forme pour diriger un pays, c'est dans une région d'Afrique. Merci.
Je vous en prie, Didier Assogba a déjà posé la question. Hein, qu'est-ce que les médecins qui attestent de la santé physique, intellectuelle et autres de nos candidats, ils ont prêté serment quand même devant la République. Le deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour, M. Sass.
Oui.
C'est Natema.
Natema.
Oui.
Vous appelez de Lemay?
Oui.
Ok.
Bonjour tout le monde, le plateau.
Oui.
Je voudrais parler de la peinture là.
Mm-hmm.
L'année passée, j'avais appelé pour parler de ça. Les communes aussi en font partie.
Mm-hmm.
Les mairies, si vous voyez, il doit être interpellé aussi.
Prendre un arrêté pour nous communiquer publiquement les peintures qui devraient être à l'usage dans les communes.
Oui, oui.
Mm-hmm.
Et secondo, ma préoccupation, c'est que. Et on a parlé des chefs d'État. Ils sont allés, on dit que même si tu fais un mandat, si tu fais deux mandats, est-ce que ce n'est pas succulent comme ça? Ce que vous savez ça, nos chefs d'État africains là, ils aiment voir le sang humain. Quand ils voient le sang versé sur le sol, c'est là où il ne faut pas aller, c'est là où ils vont.
Non, nous n'allons pas leur faire ce procès en sorcellerie. C'est leur demander justement d'être effectivement à l'écoute de leur population et de respecter les textes.
Vous voyez, Macky Sall. Les gens lui disent, il faut aller. Mais il a pris la décision, il a dit non.
Mm-hmm.
Il y a les gens qui sont plus forts que lui, qui vont lancer le Sénégal dans le ciel. C'est ça un chef d'État. Tu ne peux pas... Nous tous, nous allons mourir. Le Togo va exister. L'Afrique va exister. C'est pourquoi il faut aller, mollo, mollo. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Chacun peut aller. 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mandela, quand Mandela a fait 5 ans là, il n'est pas président de la République. Merci et bonne émission.
Je vous en prie, l'ami Natema. Le suivant.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Garo.
Monsieur Garo, oui.
Oui, vous savez, Ali Bongo, bon, quand il a survécu à sa maladie, il croit que c'est une bonne chose. Donc il peut transmettre toute sa maladie à ses compatriotes avant de partir. Merci, bonne journée.
Ça, c'est Monsieur Garo avec son style particulier. Le quatrième auditeur, bonjour.
Allô, Georges.
Oui, l'ami Georges.
Oui, à la mémoire de Jacob Hamon, comme Jean Ormesson l'a dit,
oui.
L'amour peut vous emporter, mais vous restez dans la mémoire des
c'est
gens.
C'est ça.
Et lui, il est dans la mémoire de tout un peuple.
Merci beaucoup.
Et concernant nos dirigeants, vous savez, sans vergogne, il montre l'exemple de la Turquie, d'Angela Merkel, elle n'est plus là, qu'elle est au pouvoir depuis telle année. Oubliant que dans ces pays-là, ils font des élections transparentes. Chez nous ici, moi, personnellement, qui vous parle, je suis fatigué. Hein? Je veux que les gens me foutent la vie pour que je puisse jouir du peu qui me reste à vivre, quoi. Donc, comment est-ce qu'ils font pour gérer la vie des millions de gens? Je n'arrive pas à comprendre. Si vous prenez le président Faure, le ministre de la Santé va l'appeler, le ministre de l'Éducation va l'appeler, tout le monde va l'appeler. Et ils sont à l'aise dans ça. Mais lui, il est en bonne santé. Ali Bongo, Ali Bongo. Il n'a qu'à partir et jouir du peu qui lui reste. Bonne journée à vous.
L'ami Georges, je comprends votre émotion. Merci de passer quand même le témoin au suivant. Bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Papa Sibiti.
Bonjour tout le plateau.
Tout le plateau vous salue.
Vous savez, Niaou Blombe, Porto Bon, nous les capiers, comme vous les appelez, on ne parle pas. Les gens du troisième, quatrième mandat, ils n'ont qu'à aller ce qu'il y a dedans, ils vont voir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que chacun veut être au pouvoir qu'on va faire celui qui avait. Merci beaucoup.
Mais là, papa, le plus c'est qu'ils durent longtemps au pouvoir, mais nos pays n'arrivent toujours pas à décoller. C'est pourquoi les jeunes sont obligés de quitter le pays pour aller mourir un peu partout dans le monde.
C'est ça qu'il faut dire. Hein, si vous pouvez rester là-bas et que vous allez faire ce que le peuple veut, hein, maman directeur, au lieu de 100 000 francs, si le président vous donne 1 million, ou bien 3 millions, d'après même s'il prend 100 ans, ou bien Ali Bongo, ou bien l'autre, c'est pas notre problème. Dans celui qui va aller porter en tête à lui, ce qu'il aura comme résultat tactique. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Papa Sibiti. On a parlé même de la caisse de retraite qui s'occupe de la retraite de vous, les agents du public, qui se trouvent dans un état de déliquescence totale. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui, Sylvain Gbaï.
Oui, scanner au CHU. Et enfin, je me demande si ce dernier est le bon. Et il le faut vivement.
Bon, Sylvain, bah, je sais pas. Allô, Sylvain.
Oui.
Je ne sais pas si tu vas tomber malade pour aller regarder un peu comment se présente le nouveau scanner au CHU.
Je ne suis jamais malade.
Dieu merci.
Oui. Ça, pour ce qui est de la peinture sur nos infrastructures publiques là.
Oui.
On va tirer chapeau à Cocoroco. Mais même dans sur les terrains argileux, franchement, vous allez tomber de nuit. Des bâtiments scolaires sont peints à la couleur du FPT Uni. C'est un truc public, c'est des infrastructures publiques. Vous avez votre contribution dedans. J'en ai pour moi aussi. Et pourquoi peindre les infrastructures à la couleur de
bon, je pense que Cocoroco vient de siffler la fin de cela. Et même espérons que cela fasse, que cela donne exemple dans les autres services publics.
C'est à féliciter.
Merci beaucoup.
Ça, c'est trop ça.
Mm-hmm.
Et pour des mandats. Ça, ce que vous n'avez pas fait pendant deux mandats, même si on vous donne deux mandats fois quatre, vous n'allez pas le faire.
Merci beaucoup, Sylvain. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, Isaac.
Oui.
C'est Monsieur Kofi.
L'ami Kofi.
Oui.
Mm-hmm.
Et le scanner, enfin.
Enfin.
Oui, monsieur Bissas, depuis que le scanner a été installé là, du directeur jusqu'au centre de l'État, y a-t-il eu déjà un décès?
Non, c'est ce matin que le nouveau scanner est solennellement lancé.
Et ils ne vont rien, c'est dans leur vie. C'est tout ce qu'on a demandé, on a changé depuis des années. Il faut qu'ils s'écoutent le peuple. Par rapport à nos pays, je pense que on attend toujours l'Occident ou la France pour se fumer. Ce qui se passe au Congo, là, il suffit que la France donne un temps sérieux, vous allez les voir tous s'aligner. Pourquoi ça? Ils travaillent pour les Syriens, pour les Syriens, pour nous, les Africains. Et ils copient souvent ce qui est mal. Ils ne copient pas ce qui est bon. J'ai appris ce matin, monsieur Sass, sur RSI, qu'un enfant a disparu. Et l'enfant a modulé plus de 200 éléments. Et quand on a augmenté.
Oui, oui.
Mais sur Togo, est-ce qu'un citoyen peut perdre un enfant? Vous allez voir ça?
Eh bien, l'ami Kofi,
oui,
bah, disparaissez, on va voir combien d'éléments on va mettre à la recherche, à votre recherche. Non, c'est pour la bonne humeur, c'est pour la bonne humeur, juste. Oui, le suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Avez-nous vous salue.
Pardon?
Avez-nous vous salue.
Ah, le casier avez-nous.
Oui.
Ah, là, c'est pas loin de la maison de Jacques Yakouti, ça.
Voilà, c'est pas loin. Oui, je salue Jacques au passage, c'est mon frère.
Uh-huh. Ah, donc, vous êtes Wawa aussi?
Non, c'est Ouro plutôt. Donc, monsieur Sass.
Oui.
J'aimerais féliciter le DG de Ebomaf, parce que il a fait beaucoup de projets au Togo, mais il investit encore au pays, à l'intérieur de la ligne qui dessert Niamtougou.
Oui.
Il y a aussi la BTCI. Et c'est une honte pour nos dirigeants. Ceux-là qui ont pillé ce pays, mais qui ne veulent même pas investir. Ils se connaissent. C'est méchant.
Et vous les connaissez aussi?
Je les connais moi aussi.
Ok.
Merci bien.
Je vous en prie. Eh bien, bon Kungu, il est dans les routes et dans les ponts. Il est dans les matériels agricoles, lourds. C'est lui qui construit un centre agricole à Tchichao. Il est dans l'aviation. Il est dans la banque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des Togolais qui ont l'argent ou la tête de Bon Kungu pour faire la même chose? Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, oui. Monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
Oui, c'est monsieur Joël.
Joël?
Oui, okay. Je voudrais participer à l'émission.
Vous y êtes?
Et concernant les mandats oui. Dans nos pays francophones, colonisés par la France, si nous voulons remédier à ces genres de choses, par exemple, le cas d'Ali Bongo, moi, je comptais certaines choses au niveau de la France. Parce que si la France cautionne ses coups d'État constitutionnels, et ils cautionnent Ali Bongo, comme ils avaient cautionné et Ali Bongo, le Bongo le père, ils ont cautionné aussi, et il y a des mains ici chez nous. Le problème ne se situe pas avec le souci d'aller aux élections. Bien sûr que c'est par les élections que nous pouvons accéder à une démocratie ou bien à une alternance. Mais le système en place ne permet pas...
L'alternance.
L'alternance, oui. Est-ce que, par exemple, ce que monsieur le président du Sénégal...
Macky Sall.
Ah, ouais, Macky Sall. Bien sûr que il avait peur, parce que compte tenu de... S'il avait annoncé le... sa troisième envie de participer à l'élection présidentielle la fois dernière, le Sénégal serait affaire à ça. Maintenant, qu'est-ce que la France programme pour nous?
Bon, en fait, n'est-ce pas trop d'accuser la France de tous les maux alors qu'il y a quand même 63 ans que nous sommes indépendants, que nous sommes de grandes dames en Afrique?
Nous n'avons pas reçu d'indépendance. L'indépendance, c'est sur papier seulement. Mais, en pratique, nous n'avons pas encore reçu l'indépendance. Moi, depuis, mon papa a écrit Niafimbe. Moi aussi, j'ai écrit Niafimbe. Et mon enfant aussi est en train d'écrire Niafimbe. Et les gens vont se saillir et le régime profite, le système en place profite à certains gens qui vont dire que c'est pas c'est pas encore Gnassingbé et le père qui est au pouvoir, donc Gnassingbé le fils a fait fracasser de conduire le pays. Il y en a plus d'autres personnes dans ce pays qui pourraient mener le Togo à bon port pour que les réformes soient faites et que le citoyen lambda, par exemple moi, je parle premièrement de la santé. Nous sommes des malades marchands au Togo. Nous sommes tous des malades marchands. Est-ce que moi, mon vieux père, ou bien ma belle-mère, ou bien un vieux d'un village, par exemple, Corvier ici près, Corvier à 14 km seulement de Thierry, de la ville de Thierry, quelqu'un qui fait un AVC, ou bien quelqu'un qui fait un infarctus, est-ce que lui aussi pourrait venir à l'hôpital, à la FIA, qu'on vient de construire.
Avec la route, là.
Et aussi, moi, j'ai travaillé en sous-traitance au CHI Sylvanus Olympio. Et le truc, là, le scanner, le bâtiment qui abrite le scanner, la réanimation polyvalente, c'est nous qui avons travaillé là-bas. Mm-hmm. Mais il y a tout de magouts, même dans l'orientation des marchés là-bas, et aussi dans la façon de faire les choses au mieux. Moi, je sais, c'est que le régime, lui, c'est que, et ça profite, le système pas profite à certains gens, donc ces gens-là ne vont jamais chercher à ce que la tendance arrive, parce que...
Merci l'ami Joël. Un jour, nous allons animer chez vous, dans votre basse-cour, et vos coques vont bien égayer l'ambiance. Michel, c'est la fin. Ah, merci beaucoup. Eh bien, Jacques Jacouti, Jean-Baptiste Atisso, Didier Assogba, vous avez écouté nos amis, c'est pas auditeur, hein. Ils sont désormais les amis co-animateurs. Eh bien, une minute à chacun pour réaction.
Je voudrais revenir par rapport à la caisse de retraite, pour signaler que il paraît que le directeur, il est parti à la retraite depuis des années, mais il est toujours en poste.
Oui.
Donc, il est là.
Il va être fatigué. Oui, je le connais. Nous avons été voisins à Didjolé, il va être fatigué. Voilà. La preuve, s'il a travaillé jusqu'à la retraite, c'est que l'État estime qu'il est fatigué. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est admis à la retraite, mais il continue toujours à présider la CRT.
Et l'autre aspect, pour revenir sur la question de ce que Ouro a dit, ça, je ne sais pas si vous avez un peu jeté un coup d'œil sur les levées de fonds que notre pays, le Togo, fait souvent sur le marché de l'UMOA. Vous allez constater que la plupart de ceux qui participent à ces levées de fonds-là, c'est nos compatriotes. C'est-à-dire c'est des Togolais. La plupart, c'est des Togolais. Vous vous rappelez du discours du chef de l'État en 2012, où il disait que c'est une minorité seulement qui sont là, qui sont en train de profiter des richesses aux dépens de la majorité. Moi, je voudrais simplement demander au président de la République d'organiser un forum. Un forum pour cette minorité-là. Rassurer cette minorité d'investir au Togo. Parce que si aujourd'hui on lance par exemple l'appel, avec le ministre Saïda, souvent qui lance les levées de fonds dans l'espace du mois, c'est des compatriotes togolais, ceux qui investissent.
Sous anonymat.
Oui, donc c'est pour vous dire que les Togolais ont de l'argent. Donc, il faut rassurer cette minorité-là. Demander à cette minorité de financer dans l'agriculture, de financer effectivement au niveau des PME et de PME. Aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui des filos sociaux. Il faudrait aujourd'hui que cette minorité-là puisse investir effectivement dans ces filos sociaux-là. Donc, rassurer cette minorité. Parce que si on ne rassure pas cette minorité de pouvoir investir dans le pays, vous allez voir ça. Comme moi, peut-être que vous êtes à Canal FM ici, je ne sais pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'argent ne circule pas. L'argent ne circule pas dans le pays. L'argent du pays est verrouillé quelque part. Donc, il faut rassurer cette minorité-là à financer.
Merci Jacques Jacouti, ça vaut ton carton de fin d'émission. Jean-Baptiste Kodiovi Atisso.
Oui, je crois que ce que le député vient de dire par rapport à aux investissements du Burkinabé Bankungu, je crois que le sujet est vraiment important parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans un pays où on veut réellement le développement du pays et que ça doit être les étrangers qui viennent investir massivement dans notre pays alors que nous aussi, nous avons nos compatriotes qui ont des moyens mais qui ne veulent pas ou bien qui ont peur d'investir dans notre pays. Imaginez, celui-là, il est venu
d'abord dans les BTP, dans les banques, et dans les produits matériels agricoles, et puis aujourd'hui dans l'air. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de Togolais? On est là, on croise les bras devant tout ça là. Est-ce que les Togolais, les 8 millions que nous sommes, il n'y a pas des gens qui soient capables d'investir dans ces secteurs où le Burkinabé est en train d'émerger? C'est-à-dire qu'on peut, il y a quelques mois, Fonya Singbe est allé au Nigeria pour l'ouverture de...
Il y a quelques semaines.
C'est ça.
Quand on a inauguré la raffinerie
de l'autre là, du Nigérian, son nom échappe, Aliko Dangote. Alors, est-ce que nous, lui-même, il n'est pas gêné par en allant à ces rencontres, hein? Alors que nous aussi, nous avons les potentialités. Il y a des milliardaires au Togo qui peuvent investir. Il n'a qu'à quand même.
Autrement dit, un peu comme Jacques, qu'on trouve un climat pour permettre.
Et créer de l'emploi aux gens.
De l'argent, d'investir dans le pays.
On a les banques qui sont privatisées, je crois, à 95%. Maintenant, est-ce que c'est avec
merci. On va pas évoluer normal. Avec Didier Assogba.
Je crois fondamentalement, et je continue de dire, je l'ai déjà dit au cours de l'émission, que l'homme africain ne veut pas s'aimer. Et tout ce que vous dites là, ça rentre dans la connotation que je donne à cette phrase-là. Parce que si nous, véritablement, nous aimons, les Aliko Dangote, comme les Nigériens s'aiment, on va forcément en trouver chez nous ici, les capitaines d'industrie. Il n'y a pas que les Bonkongous qui doivent venir faire les routes chez nous, faire les lits d'aviation et autre chose chez nous. On peut trouver des Togolais qui peuvent faire. Bon, si Togolais, nous voulons nous aimer, je pense qu'on peut régler tout ça. Et même jusque sur le plan politique et autre chose, les différends que nous avons, les discussions de tous les jours, les chamailleries ici et là, si véritablement nous nous aimons et que nous aimons notre pays, nous voulons qu'il avance, nous aurons pu nous comprendre et nous donner la paix pour que le pays marche. Mais généralement, comme nous n'aimons pas, nous aimons généralement les autres au détriment de nous-mêmes. Nous avons ces problèmes-là.
Merci. Le club La Presse qui décerne deux cartons verts. Le premier, c'est à l'Olympique de Vaud, qui vient d'être sacré champion de la Détroit. Hein? Olympique de Vaud qui a éliminé la Sfossa de Lomé en demi-finale, a triomphé de Arsenal Football Club de Kara. C'était hier à Takwami, sur terrain neutre, par un score de 2-1. Cela vaut carton vert et beaucoup de chance à l'Olympique de Vaud la saison prochaine en Division 2. Le deuxième carton vert est adressé au major Banlougou qui est au commissariat central de Lomé. Ça n'arrive pas tous les jours, mais la preuve au club de La Presse, si vous faites bien, vous avez carton vert, mais si ce que vous faites n'est pas bien, Jean-Baptiste, c'est le carton.
C'est le rouge, naturellement.
Aujourd'hui, c'est le vert pour le major Banlougou au commissariat central. S'il veut savoir le pourquoi de ce carton vert, il n'a qu'à me contacter en troisième mi-temps et je lui dirai.
Les auditeurs aussi.
Demain mardi.
L'émission Club de La Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.